C'est un flot, un flux, un océan, une histoire, des mots, des phrases, des accumulations, des sons, une partition. Ce sont des personnes, des personnages, des voix, des fulgurances, une poétique, une pensée qui fait boum, un mouvement, un monde. C'est, comment dire en un mot ? Alors, c'est quoi ? On peut reprendre l'énumération, mais il faut aussi nommer. C'est Salve d'honneur pour orchestre à papa, le nouveau roman de Dieudonné Nyanguna, homme de théâtre, auteur, metteur en scène, acteur et romancier. Bonjour Dieudonné Nyanguna.
Bonjour Pascal.
Salve d'honneur est le dernier tome d'une trilogie dédiée à votre père et c'est, comme vous l'écrivez, du Dido. Donc, est-ce que l'homme, c'est le style ou inversement ?
Je crois que c'est le style qui fait l'homme. Ouais, parce que toute sa pensée est dans son style. Une forme exprime très bien la pensée de celui qui est derrière.
Donc, votre pensée, c'est cette profusion, c'est cette accumulation, c'est cette richesse à la fois sémantique et imaginaire.
Oui, ce sont des couches comme ça qui sont superposées. Pas pour le plaisir de simplement les superposer, mais c'est une vie comme ça qui est formée à partir d'un certain nombre de matières. Donc il y a la matière familiale, la matière bibliothèque, la matière théâtre, la matière conte de la grand-mère. Et bien voilà, ces couches-là viennent comme ça par strates former tout un bloc et ce bloc, il s'exprime.
Alors cette profusion que vous aimez tant, qui vous caractérise, on pourrait se dire mais pourquoi ? Et en lisant Salve d'honneur, je me suis dit mais oui, bien sûr, c'est l'origine de la famille, parce que vous nous racontez l'histoire d'une famille, mais très, 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 très nombreuse, où ça prolifère.
On pourrait encore être beaucoup plus nombreux que ça, mais bon, 22, ça suffisait quand même à la maison.
Voilà, 22
avec,
enfants.
Avec deux mamans à la maison et d'autres tout autour. Papa, assez majestueux, plénipotentiaire, le dur, comme on l'appelait, Duras, en référence à Marguerite Duras, mais aussi en référence au fait qu'il aimait être considéré comme étant quelqu'un de dur, le lionceau, parce qu'il disait que le petit du lion est beaucoup plus virulent que son père. Alors, il était au centre, bien évidemment, de ce régiment, parce qu'il nous appelait mon régiment, nous étions des Nyongoustins. Voilà. Il disait, nous sommes de Nyongoustins à Échant. Et puis on chantait l'hymne de Nyongoustins. Voilà. Donc il y avait évidemment ce régiment où il y avait de l'art, de la musique, du théâtre, des jeux et beaucoup de livres et beaucoup de contes.
Alors, vous formiez donc cette famille des Nyangoustins avec des tontons, des tatas, des mamans, des frères, des sœurs de partout. Vous dites 22, mais à un moment dans le livre, vous dites qu'il y en avait peut-être une trentaine.
Peut-être ça existe toujours. Voilà pourquoi le livre s'étend à garder toute sa protubérance.
Il concevait cependant ses enfants avec, dites-vous, une moralité ferme. Mmh. Ça veut dire quoi, cela ?
Alors, il avait une façon d'imaginer la personne qu'il va mettre au monde. Même si à la fin, le résultat ne peut pas complètement être adéquat, mais il avait une ligne directive avant que l'enfant ne vienne au monde. Il va décider de comment il va être, surtout de qu'est-ce qu'il va faire, dans quelle logique il va, évidemment, essayer de le placer. Et ça, c'est quelque chose qu'il négociait avec la maman de l'enfant, bien avant que l'enfant ne vienne au monde. L'enfant ne saura jamais. Il va simplement vivre la chose comme on dirige un acteur sans lui dire où est-ce qu'on l'emmène. Et puis au fur et à mesure, ben, un chemin va se dessiner comme ça. Et une fois qu'il sera sur les rails, et c'est là que la révélation lui sera faite, que bien évidemment il y a eu un projet, une note d'intention de mise en scène bien avant. Donc, et ça, il ne perdait jamais le nord quand il tenait évidemment une pensée bien bien ferme sur ce qu'il voulait faire de chaque enfant.
Et vous savez ce qu'il voulait faire de vous ?
Un auteur. Donc et moi, je ne l'ai jamais su.
Mais vous avez
même
réalisé
après
le
sa
père.
Mort, c'est bien après que je l'ai su. Pour moi, c'est moi qui voulais devenir auteur et acteur. J'ai toujours trouvé que c'était de mon bon vouloir. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé depuis gamin. Donc les grands moments que j'ai eu à partager avec mon père, c'est quand il était sur le canapé en train de regarder Fernandel ou Charles Bronson ou encore Jean Gabin, qui étaient ses trois meilleurs acteurs, ou bien quand ils m'ont fermé dans la bibliothèque pour dévorer toute la bibliothèque. Et là, je pouvais passer le temps avec lui pour essayer un peu de remonter un certain nombre d'histoires enfermées dans ces bibliothèques. Mais à moi de les remonter, non seulement pour les avoir lus, mais en plus, une fois que je les raconte, je dois me mettre à un endroit comme si je les réécrivais à mon tour. Donc, il y avait cette relation-là entre l'acteur sur l'écran et puis l'acteur qui doit écrire, donc l'acteur de l'écriture. Donc, cette passation entre auteur et acteur était quelque chose qui, qui a toujours eu lieu comme ça dans mon enfance et qui a pris une belle envol. Même quand, à un moment, il a fait semblant de m'interdire. Au fait, il savait très bien parce qu'il ne pouvait pas m'interdire. C'est beaucoup plus tard. Je suis déjà comédien. Je commence déjà à tourner. Je vais à Ouaga, je reviens. Je vais jouer à Kim, je reviens. Je viens jouer en France. Beaucoup plus tard que je vais apprendre qu'il avait dit un soir à ma mère, quelques mois avant qu'il puisse se mettre ensemble avec ma mère pour me sortir du bidon de maman, que là, on va créer un artiste.
Donc, vous êtes devenu l'artiste que votre père souhaitait, avec vos frères, vos sœurs. Vous avez vécu cette enfance comment ? Parce que 22 frères et sœurs, c'est quand même pas rien. Il y a de l'allégresse, il y a du bonheur, mais quand même, de temps en temps, un peu de douleur qui pointe dans ce livre.
Ah ! Quand on fait comme ça, une marche arrière sur les chemins de son enfance, on en sort pas mal de choses. Hormis les choses qu'on connaît, il y a toujours des surprises. Il y a des choses qu'on croyait avoir oubliées, parce qu'à un moment, on a décidé de faire fi de ça. C'est pour ça qu'évidemment, écrire est quelque chose d'assez intéressant, parce que quand on écrit, on prend une barque. Cette barque ne va pas de l'avant, non. Elle repart en arrière. Elle repart en arrière, comme disait Jean Genet, chercher où se trouve le poète. Bien dans son enfance, cette barque nous ramène au fait vers son passé. Et dans ce passé-là, au fait, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on avait cachées. On les a cachées expressément, puis après on a oublié qu'on les avait cachées. C'est comme un acteur qui joue, après il se fait prendre par son propre jeu, il oublie qu'il est en train de jouer, il croit que c'est réel. Donc voilà, donc une fois qu'on fait ce voyage-là, où on prend la barque qui nous ramène vers l'enfance, et bien là, dans les plaisirs qu'on a eu à partager, à vivre, on se rend compte qu'il y a beaucoup aussi des douleurs qui font partie intégrante de ces moments de plaisir, de ces moments poétiques, et des fois c'est même la transformation de ces douleurs qui donnent des sursauts comiques, des sursauts poétiques. On trouve même la raison des fois pour laquelle on a préféré chanter, préféré danser, préféré rire. On comprend même pourquoi on a eu cette préférence, parce que ça cachait quelque chose. Oui.
Mais c'était important pour vous de consacrer ce roman, ces romans, puisque c'est une trilogie, à votre père. C'était le projet.
C'était le projet et ça le demeure, parce que c'est la trilogie de papa. Donc le premier volet s'intitule « Papa tombe dans la lune ». Le deuxième volet, c'est « La mise en papa », qui a donc eu cette année le Grand Prix Afrique Avant-Garde. Puis le troisième volet, « Salve d'honneur pour Orchestre à papa », qui est sorti là dernièrement, en avril de cette année. C'est consacré évidemment à la mémoire de papa, mais beaucoup plus, je dirais, à ma mémoire. Ouais. Comment, évidemment, juste avant de disparaître. je crois que c'est Lionel Trouillot qui disait « L'amour avant que j'oublie ». Ouais, l'amour avant que j'oublie. Donc, c'est maintenant avant que j'oublie. Je dis avant que j'oublie, c'est pas que je vais tomber dans l'Alzheimer, c'est pas ça la question. C'est que je travaille, que ce soit au niveau du théâtre, quand j'écris des pièces de théâtre, quand je fais des mises en scène, ou que ce soit au niveau des programmes d'ateliers de formation que je donne dans beaucoup de pays en Afrique et dans les écoles en France, que ce soit donc au niveau aussi de mon écriture, je travaille toujours par période. C'est-à-dire, j'ai des thèmes par période. Il y a une période où je vais me consacrer sur des questions de guerre. Alors là, j'en ai sorti carré blanc, patati patata, de tralala. À des périodes, je vais me consacrer à des questions qui vont être plus ou moins très, très empiriques, très, très au fond, comme Sheda, Mkengeji. C'est toute une période comme ça avec des pièces fleuves. Puis à des périodes où je vais travailler sur des choses de l'homme clandestin qui est à l'intérieur de moi, mais qui est aussi l'autre. Et ce sont des périodes qui donnent attitude clando, qui donnent de ce côté, qui donnent et Dieu ne pesait pas lourd, qui donnent la patience de l'araignée. Donc, il revient sur ces questions de l'homme exilés, géographiques, même aussi à l'intérieur de soi, qui sont des espèces de monologues comme ça, qui partent de l'intérieur pour toucher un peu une certaine poétique intérieure sur ce qu'on est. Et puis, il y a des périodes, bien évidemment, où je suis sur des questions de famille, sur des questions de lien, sur des questions de mémoire, sur des questions d'héritage. Donc, maintenant, je suis dans cette période-là, que j'ai bouclée notamment avec la trilogie de Papa. Donc, c'est une trilogie que j'ai écrite ces 10 dernières années, disons ces 15 dernières années. Et donc, voilà pourquoi, avant que je passe une période, il était important, parce que c'est maintenant que ça faisait sens en moi, par rapport à l'âge que j'ai, par rapport à là où je suis dans mon travail, par rapport à la relation que j'ai avec mes filles. Donc, c'était maintenant qu'il fallait le faire.
Donc, raconter l'histoire familiale. Dieudonné Nyanguna, pas de rumba, dit Claude François, que votre père aimait, oui. Mais du rock suisse dans De Vive Voix, avec Cyril, avec la rotation de l'axe, extrait de leur nouvel album.
kilomètres, reflet de mirage inférieur, miracle, vitesse du mirage, destination inconnue, ivresse, des grandes découvertes, les rondins, les chariots, la sueur, élévation de pyramide. Les séries de chicane, les RC, les bâtons ne peuvent arrêter la rotation de l'axe. Enchaîné travelling, panneaux lumineux dépassés, une de trois lois de Newton, dérapage incontrôlé, accélération au lithium, une rose devant la boussole, toute voile dehors les amphores, des tankers, les lockers, la baston. Les séries de chicane, les RC, les bâtons ne peuvent arrêter la rotation de l'axe.
Cyril, Cyril sur RFI avec ce titre extrait de leur nouvel album intitulé « Le futur, ça marche pas ». Alors, on va parler du passé avec votre roman Dieudonné Nyanguna, salve d'honneur pour Orchestre à Papa, dont l'objectif est, dites-vous, d'écrire votre père sans en laisser une miette. Et vous racontez donc ce dur, tel était son surnom, Duras aussi, c'est un autre surnom, qui organise un festival de théâtre dans la grande maison baptisée Château Grenouille. Et puis, il faut dire quand même qu'il était prof de français.
Oui,
et qu'il va laisser un livre important.
Le premier grammairien du Congo. Le premier grammairien du Congo-Brazzaville.
Et qui corrigeait les versions du dictionnaire de l'Académie française.
Exactement.
Premier grammairien du Congo. Et il va écrire un essai sur le français du Congo. En 1990, c'est ça ?
En fait, il disait le français au Congo.
Au Congo.
C'était même le débat, parce que certains voulaient qu'il dise le français du Congo. Lui insistait en disant non, le français au Congo.
C'est une différence sémantique assez importante.
Assez importante, oui.
Et le livre aujourd'hui est indisponible, mais vous citez dans votre roman un extrait en exergue de ce livre, Le français au Congo, qui est assez intéressant parce qu'il raconte la spécificité créative des Congolais avec cette langue héritée de la colonisation.
Oui.
C'est quoi le français au Congo ?
Je ne suis pas mieux placé pour dire ce que c'est que le français au Congo. Je crois que ça, c'était le domaine de mon père, qui était grammairien. Et lui s'intéressait beaucoup à ça, parce qu'il était, il enseignait la philologie, dans la sémantique. Il était très, très...
Oui, mais vous le parlez, vous l'écrivez, ce français au Congo.
J'ai un rapport avec le français au Congo qui est assez complexe, parce que je suis un auteur. Donc, quand je m'approche de la langue, je suis dans la matière. C'est-à-dire, c'est une matière que je suis en train de travailler comme un poète, comme un dramaturge, comme un musicien fera de ses notes une partition. C'est-à-dire, il va passer par une transformation, il va faire un arrangement. Donc, le mot où je m'approche, bien évidemment, de cette langue, je la considère d'abord comme étant une matière que je vais tourner, que je vais modeler, que je vais... penser, casser, conjuguer avec d'autres essences, avec d'autres pensées, pour en sortir une œuvre. Bon, après, ça, c'est pas spécifiquement ce que c'est que le français au Congo, ça, c'est mon rapport, bien évidemment, d'artiste que je suis, qui travaille avec une langue. Ce que je pourrais dire du français au Congo, je crois qu'il faut lire le livre de mon père, qui, évidemment, n'est plus sur le marché. Alors là, c'est peut-être le but aussi d'avoir écrit sur mon père pour qu'on aille fouiller ce qu'il avait dit sur le français au Congo. Mais je crois qu'il y a un rapport assez particulier, comme partout on parle français, bien évidemment, il y a un rapport assez particulier, donc il lit l'histoire de ce territoire-là, donc sa façon d'être contemporaine, bien évidemment son inventivité créative, avec la réalité d'une langue qui est venue historiquement comptant toutes ses contingences. Et donc du coup, au milieu, il y a ce qu'on appelle une alchimie qu'appliquent les vivants, comme ceux, les vivants, savent le faire en travaillant avec une langue quotidiennement aux vivants, c'est-à-dire c'est leur réalité qui passe à travers une langue.
Mais votre père, Dieudonné Nyanguna, avait avez un rapport un peu particulier à la langue, parce que vous dites, ou en tout cas un ami de votre père qu'il connaît à l'époque, dit qu'en fait il détestait la grammaire et qu'il est devenu grammairien finalement pour se venger d'une certaine façon, et qu'il avait les doigts coloniaux, c'est-à-dire oui. qu'on lui avait frappé avec des règles de fer sur les doigts pour qu'il apprenne le français, et oui. que ça c'était un traumatisme indépassable.
Ouais, mais ça c'était à l'époque coloniale. C'était pas facile. Il venait d'un village où évidemment il n'y avait pas d'école. Donc les missionnaires étaient venus le chercher à l'âge de 7 ans. Donc on lui a coupé de sa mère. Donc on l'envoyait quelque part où il y avait un internat. Et donc il ne va pas revoir sa mère pendant un bon bout de temps. Il va vivre donc, tout petit comme ça, sans tendresse maternelle. Et pendant qu'il pense à sa mère et tout ce que tu veux, bon, il est dans un internat, il se met au pas, quoi. Donc il y a tout ce qu'il faut apprendre avec une rigueur très coloniale pour bien expliquer le tableau. Et donc, en fait, quand il a tous ses doigts complètement tordus par la règle. Alors, c'est important de spécifier que c'est la règle, parce que c'est autant la règle comme le morceau de fer. Quoi. La règle, en même temps, c'est la règle comme la règle.
Et il vous a transmis cette règle.
Exactement, il nous a transmis les deux règles.
Les deux règles. Vous avez eu droit aussi à des coups de règle.
Exactement,
sur les
parce
doigts.
Que, à son époque, l'une ne passait pas sans l'autre. Hein. C'est des choses qu'on ne peut plus retranscrire aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Mais il a vécu évidemment dans cette douleur, dans ce qu'il a pris, un peu comme ce labotancier qui a pris le français avec le symbole autour du cou, donc qui était ce médaillon qui était rempli de matière fécale. Quand on faisait une faute de français, on l'avait autour du cou comme médaillon jusqu'à ce qu'on trouve le prochain qui va faire une faute. Et donc, du coup, c'est cette histoire qui est quand même. Qu'il faut comprendre que c'est des gens qui ont appris dans une certaine douleur où l'apprentissage n'était pas un amour. Mais par contre, il y avait un butin à la fin. C'est-à-dire, une fois qu'on dentait la chose, on avait un butin. Je ne dirais pas un butin de guerre. Oui, quand même, ça ressemble un peu à un butin de guerre, parce que ce n'était pas la guerre contre notre culture, mais c'était la guerre contre une certaine ignorance pour maîtriser quelque chose. Et après, afin évidemment de pouvoir passer à un statut social, à un niveau de vie, et aussi parce que c'était parmi les promesses intellectuelles du pays, donc avoir la responsabilité de pouvoir guider ceux qui viennent après ou ceux qui viendront après, hein, cette responsabilité historique. Et donc du coup, il y avait une rigueur, donc cette rigueur-là, évidemment, mon père le portait jusque dans ses doigts tordus pour apprendre la grammaire française. Donc au final, ce n'est pas tellement une détestation, c'est une histoire qu'il déteste, mais c'est une grammaire finalement qu'il a aimée, parce que ça l'a libéré dans un sens, et ça lui a pris son enfance dans un autre.
Vous pourriez dire que vous aimez cette grammaire-là aussi, cette langue-là ?
Moi, je n'ai pas vécu la même histoire avec mon père que mon père, donc du coup, j'ai une autre relation avec cette grammaire, qui est une relation qui est très très amoureuse, tellement amoureuse que ça me permet de lui faire des infidélités comme un vrai amoureux sait en faire, c'est-à-dire je l'aime et cela me suffit, donc nul besoin de lui prouver une certaine fidélité, puisque je l'aime, que j'aille voir ailleurs, je peux revenir à n'importe quel moment parce que je l'ai dans mon cœur, parce que voilà, ça, c'est toute la beauté de la chose.
De l'héritage paternel et de l'usage de la langue française, ce roman proliférant et truculent du Dieudonné Langoudin est aussi, dans certains chapitres, un livre qui interroge cette langue, avec notamment ce dialogue fictif entre vous et vous-même, puisque c'est un dialogue intérieur que l'on trouve à peu près à la moitié du livre. J'aimerais que vous nous lisiez cet extrait.
T'en as pas un peu marre là de tourner autour d'un vieux morceau d'histoire qui ne tient même pas sur les dents d'une fourchette ? On s'en branle de cette redevance coloniale, Djokos. Y a pas se prendre le chou pour une grammaire qui ne nous importe pas. Sérieux. Tiens, pense un peu la grammaire dans ta langue maternelle. Ou même dans la langue nationale du pays. Le Lingala, le Kituba. Vas-y, émancipe-toi. Et sors enfin du piège colonial qui avait coincé ton père. Tu sais ce qu'il te faut, Djokodé ? Écrire en Sundi. Même pas en Lari, mais en Sundi, tu vois. Avec toutes ces nuances de prononciation et ces délicatesses d'accent, ces intonations chantonnées, sa triple négation pour donner une forme négative, sa forme affirmo-négative et négativo-négro-affirmative, le bruit silencieux de ses interjections, son double jeu au présent de l'indicatif, sa souplesse à l'abandon en fin de chaque phrase. Enfin, tu t'imagines le scandale que tu crées auprès des siens en retournant grossir les rangs de la France nègre, comme disait Yombo Ologem, toi qui as quand même appris un peu de ta culture et d'où venaient ta mère et ton père traditionnellement. Tu parles leur langue en plus de parler la sienne. Tu parles leur langue en plus de parler la tienne, le Lari, et d'être grandi dans Brazza Nord, où le Lingala est plus qu'une langue. Si tu as eu un papa comme le tien, avec toutes ses complexités, et qui savait de quoi il retournait jusqu'à devenir le chef de sa grande famille traditionnelle et guide spirituel de son clan Koussou au village, tout en étant le grammairien qu'il avait été au service de la langue des autres, qu'on continue à prendre pour la nôtre, d'après autre, m'as-tu vu ? Enfin, arrêtez cette mendicité francophile, c'est obscène. Bref, c'était justement pour t'ouvrir les yeux et non pour te forcer à l'imiter.
Extrait donc de Salve d'honneur pour orchestre à papa, pardon, votre nouveau roman, Dieudonné Nyanguna. Quelle langue vous parlez ? Vous parlez le Lingala, le Lari ?
Oui, je parle Lingala très mal. C'est une langue que j'aime beaucoup, c'est la langue nationale du Congo, c'est l'une des deux langues nationales du Congo, une langue très musicale. On a toute une grande culture de rumba qui a fait honneur à cette langue. Donc je parle Lingala, mais je ne suis pas un bon lingalophone parce que voilà, j'ai un accent complètement à couper au couteau quand je parle Lingala. C'est un accent qui est très Lari, donc je parle mieux Lari et je parle un peu Sundji, donc la langue que parlaient mon père et son père et sa mère, la langue que parle ma mère, tout et tout. Et sinon, je suis un vrai larifone et j'aime le Lingala, j'aime le Kituba que je parle aussi très très mal, une fois de plus, mais ce sont des langues que j'aime.
Alors, je vous pose ces questions
parce
que
milieu,
dans votre...
Au milieu, il y a quelque chose qui s'appelle une langue qui est venue en bateau, qui s'appelle le français, que j'aime beaucoup parce qu'il me donne une certaine amplitude, comme ça, sur des imaginaires voisins avec d'autres langues qui ne sont pas forcément africaines. Parce que ça me permet de créer des ponts quand je lis un auteur qui n'est pas forcément francophone au départ. Alors du coup, l'enjeu de l'écriture pour moi se tient sur la langue Lari, que je maîtrise très très bien, la langue Sundji, d'où évidemment je pense quand je pense, parce que c'est par la langue Sundji que je pense en Lari, et du coup les langues adjacentes que je parle très mal mais dont j'adore les sonorités comme le Lingala, et à partir de là, j'invente ce que je pourrais appeler du dido quand j'écris en français.
Alors, je vous pose cette question parce que dans votre roman, il y a toute une réflexion sur l'appartenance à une culture. Qu'est-ce qui fait que je suis français, que vous êtes congolais ? Or, vous dites, je suis un putain de congolais et j'ai une existence de congolais. C'est-à-dire que connaître la langue de l'autre ne suffit pas, vivre dans le pays de l'autre ne suffit pas pour être de cette culture-là. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un congolais ?
Ah, mais je suis un Congolais, il n'y a même pas quelque chose à prouver. Je suis un Congolais, c'est un fait. Ça serait impossible pour moi de prouver. Et d'ailleurs, je crois que ça serait la chose la plus difficile pour moi de prouver une évidence. Ouais, prouver une évidence, c'est l'une des choses qui n'est pas du tout facile. Hein. Ouh là 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 là. Parce que c'est même pas mathématique. Si j'essaie d'expliquer en quoi je suis Congolais, je ferais une erreur. Je ferai une erreur. Je crois que je sais d'abord que c'est un fait que je suis Congolais, un fait de culture, parce que je suis né, j'ai grandi dans cette culture, j'ai baigné dans cette culture, mais sans plus, ça ne suffit pas, parce qu'on peut connaître une culture sans l'être. Sans être, sans l'être, oui. Tout comme on peut apprendre une culture, on la maîtrise et l'enseigner même, sans forcément être de cette culture.
C'est pour ça ma question.
Et voilà pourquoi, pour moi, on est, et bien vraiment, on est du verbe être. C'est toute la question shakespearienne sur laquelle Shakespeare a basé, bien évidemment, toute sa théâtralité, notamment dans Hamlet, et pas que. Quand il dit to be or not to be, la question c'est ça, c'est être ou ne pas être. Savoir est une chose très très importante, le savoir on le transmet, ce qu'on est on peut aussi le transmettre, mais ce qu'on est, on l'est de fait qu'on le transmette ou pas. On l'est de fait, oui. Bon, c'est vrai, je suis un putain de Congolais parce que ça, je veux dire, ça ne se triche pas, ça ne se monnaie pas, ça ne se vend même pas, ça ne peut pas s'arracher, même si j'ai la double nationalité parce que je suis français, mais bien évidemment, c'est quelque chose qui ne s'en va pas. Et j'aimerais même pas qu'elles sont là, et même si elles sont là, elles ne pourraient pas partir. Ça serait seulement une lubie de croire qu'aujourd'hui, je suis devenu moins congolais, ce qui est complètement faux. On n'est pas moins quand on est déjà.
La question, c'est celle de comment on communique entre cultures, avec des êtres différents. Et cette réflexion émerge aussi dans votre roman, puisque vous racontez l'histoire de votre père et vous voilà transporté en Inde, à Calcutta.
Oui, exactement.
Parce qu'il part en Inde, à Calcutta.
Il partait souvent en Inde, à Calcutta, pour aller gratter la sansa et faire des réunions d'intellectuels avec des clubs des gens qui réfléchissaient sur la grammaire, sur la science. Il adorait ce genre de réunion comme ça. Je crois que je tiens quelque chose de cet endroit-là de lui, oui. Parce que dès que je commence à parler de théâtre avec les amis, oulala, on peut finir toutes les bières d'un bar jusqu'au matin, jusqu'à la fin. Dès qu'il s'agit de quelque chose qui me passionne. Oui, parce qu'il passait des soirées énorme avec des amis grammairiens, je me souviens, à la maison, la discussion pouvait commencer à 20h, ils sont en train de parler de Y jusqu'à 8h du matin. Et ils sont contents.
Même vous, vous n'y arriveriez pas.
Nous, on n'arriverait pas, même pas, on n'arriverait même pas. Et ils sont contents, ils sont passionnés. C'est beau de rencontrer des gens qui sont passionnés, et c'est aussi beau de vivre avec des gens qui sont passionnés, qui aiment la chose qu'ils font, qui la réfléchissent, parce qu'en fait, pour eux, il n'y a plus de limite en ce moment-là, quand ils rentrent dans leur zone, je dirais pas de confort, leur zone de réflexion. Oui, oui. Donc, ils partaient pour ce genre de séminaire, pour ce genre de rencontre là-bas. Et moi, dans les recherches que j'ai fait bien après sa mort, où j'ai pris un certain nombre des chemins, évidemment, qui l'ont conduit à se former, à se forger, à être ce lionceau, à être ce duras-là, ce plénipotentiaire, eh bien, ces chemins m'ont mené, entre autres, à rencontrer donc des gens comme ça à Calcutta, qui l'ont connu, avec lesquels ils réfléchissaient. Mais c'est ça aussi l'importance pour moi d'une culture. Pour moi, une culture, ce n'est pas quelque chose qui se ferme sur soi. Une culture a toujours des portes. Même pas une, mais des portes. C'est comme quand on construit une ville, on oublie qu'une ville a des portes. Elle n'a pas qu'un rempart ou des murs, elle a des portes. Et je crois que le plus important dans la construction d'une maison ou d'un édifice, ce sont les portes. Ce sont les portes et les fenêtres. Parce que ça permet évidemment de faire rentrer de la lumière, ça permet de sortir et de revenir, ça permet d'accueillir les gens, ça permet de discuter avec l'autre. Et donc dans toute culture, au fait, ce qui m'intéresse sont les portes. Parce que ce sont des halos de lumière, c'est par ces fentes-là qu'on tend la main, qu'on fait rentrer des choses, qu'on dialogue. Qu'on dialogue, oui. Donc, être dans une culture ne veut pas dire qu'on est enfermé. Non, non. Être dans une culture, c'est juste un endroit d'où on part. C'est juste un endroit d'où on part. D'où on part pour dialoguer avec l'autre, pour dialoguer avec les autres. Et l'autre, qui est aussi à son endroit, là où il est, ce n'est toujours qu'un début, chaque fois. Chaque fois, ce n'est qu'un début pour rencontrer. Ce sont des prétextes pour tendre la main. Et ces prétextes-là sont représentés par des portes.
L'écriture a changé pour vous après ces trois romans ? En quelques secondes, là, l'émission touche à sa fin, Dieudonné Yanguna. J'ai l'impression que ça a été un exercice de clarification aussi dans votre vie.
Énormément, mon ami Pascal, énormément. Heureusement que j'ai écrit cette trilogie-là. Énormément. Je crois que je ne serais pas arrivé à clarifier les choses. Après, je ne suis pas encore passé maître dans l'art de la clarification, mais c'est un exercice. J'ai payé, hein.
15 ans d'écriture.
Oui, j'ai payé, j'ai donné, hein. J'ai sué et je me suis arraché une peau, j'ai fait la mue. C'était une mue, c'est intéressant. L'écriture nous révèle et permet évidemment à ce qu'on arrive à transcender, à traverser des portes qui étaient fermées à l'intérieur de nous pour tendre à d'autres meilleurs que nous sommes. Ouais.
Merci beaucoup Dieudonné Yanguna, salve d'honneur pour Orchestra Papa. C'est édité chez L'Œil d'Or, comme les deux précédents. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Et on se retrouve demain.